Liste de contrôle numéro 2. La clôture du projet. Considérons à présent la liste de contrôle de clôture du projet. L'achèvement du projet est un moment très particulier dans la vie d'un travailleur du savoir, étant donné que c'est l'une des rares fois où quelque chose prend vraiment fin. Ce qui rend en partie le travail moderne si difficile, c'est que rien ne semble jamais se terminer. Les discussions téléphoniques et les réunions s'enchaînant sans interruption, nous avons peu l'occasion de célébrer une victoire nette et de prendre clairement un nouveau départ. Raison de plus pour morceler nos projets en petites unités, cela permet de ressentir d'autant plus souvent ce précieux sentiment d'accomplissement. Pour autant, ne nous contentons pas de célébrer la fin de nos projets, tirons-en des enseignements susceptibles d'apporter de la valeur à l'avenir. C'est là que la liste de contrôle de clôture de projet est essentielle. La dérouler vous permettra de décider s'il y a des connaissances réutilisables qui méritent d'être conservées avant d'archiver le reste. De plus, avoir pris le temps de sauvegarder et de préserver le matériau issu de projets passés est la condition sine qua non pour utiliser une liste de contrôle de lancement de projet. Voici ma liste de clôture de projet. 1. Marquez le projet comme terminé dans le gestionnaire de tâches ou l'application de gestion de projet. 2. Barrez l'objectif projet et le transférez dans la catégorie « Achevé ». 3. Passez brièvement en revue les briques intermédiaires et les rangez dans d'autres dossiers. 4. Déplacez le projet dans la section « Archives » sur toutes les plateformes. 5. Si le projet devient inactif, ajoutez au dossier une note sur son état actuel avant de l'archiver. 1. Marquez le projet comme achevé dans le gestionnaire de tâches. Pour commencer, assurez-vous que le projet est bel et bien fini. Il reste souvent quelques tâches à boucler avant sa complétude effective, telles qu'obtenir les approbations finales, remplir et envoyer des documents d'ordre administratif ou diffuser les livrables. C'est pourquoi je regarde d'abord mon application de gestion des tâches pour savoir où j'en suis. Quand toutes les tâches listées dans mon application sont terminées, je peux passer à la deuxième étape. 2. Barrer l'objectif projet et le transférer dans la section « Achevé ». Chacun des projets sur lesquels je travaille comporte normalement des objectifs associés. Je les liste tous dans une note numérique en distinguant les objectifs à court terme, à moins d'un an, de ceux à long terme. J'aime prendre le temps de me demander si mon objectif initial a été atteint et si oui, quels sont les facteurs qui m'ont permis d'y arriver. Comment je peux renouveler cette réussite ou faire encore mieux? Si je n'ai pas complètement réussi, pourquoi? Que puis-je apprendre ou changer pour éviter de commettre les mêmes erreurs la fois d'après? Le temps à consacrer à ces questions dépend de la taille du projet. Un gros projet d'équipe peut justifier que l'on passe des heures à l'analyser en profondeur, alors qu'un petit projet personnel ne devrait pas vous prendre plus de quelques minutes. J'aime également barrer l'objectif et le transférer dans une autre section dénommée « Achevé ». Chaque fois que j'ai besoin de me remotiver, je peux m'y référer et me rappeler tous les objectifs significatifs, majeurs ou mineurs, que j'ai atteints dans le passé. Vous ferez ainsi un excellent usage de votre second cerveau. 3. Passez brièvement en revue les briques intermédiaires et les déplacez dans d'autres dossiers. Ensuite, je regarde dans le dossier projet s'il n'y a pas de briques intermédiaires que j'aurais créées et que je pourrais réutiliser à l'avenir. Cela peut aussi bien être un gabarit de page web qu'un ordre du jour pour un entretien annuel d'évaluation en face à face, ou une série de questions pour un entretien d'embauche. Être capable de voir ces documents et ces fichiers comme les produits tangibles d'une réflexion de qualité demande d'adapter son regard. Beaucoup de ce que nous produisons est répétitif, à quelques variations près. Si votre réflexion peut se déployer en s'appuyant sur vos travaux antérieurs plutôt que de partir de zéro, vous gagnerez beaucoup de temps. Pour ce faire, je place donc chaque brique intermédiaire qui, selon moi, peut être intéressante pour un autre projet dans le dossier correspondant. Il en va de même pour les notes qui peuvent se rattacher à des domaines ou à des ressources données. Ce n'est pas une décision irrémédiable et vous pourrez toujours changer d'avis plus tard. Ne vous inquiétez pas non plus si vous passez à côté de certaines de ces briques. Il sera toujours temps de remettre la main dessus en faisant une recherche par mots-clés dans vos archives. 4. Déplacez le projet dans la section « Archives » sur toutes les plateformes. Il est maintenant temps de déplacer le dossier pour le ranger dans la section « Archives » de votre application de prise de notes et de faire de même sur toutes les plateformes utilisées au cours du projet. Pour moi, cela inclut en général la section « Documents » de mon ordinateur ainsi que l'espace de stockage de mes données dans le cloud. Comme cela, vous évitez de noyer vos projets actifs dans une masse de projets passés tout en conservant tout ce que vous avez produit au cas où, sait-on jamais, vous ayez besoin d'une de leurs composantes à l'avenir. 5. Si le projet devient inactif, ajoutez au dossier une note sur son état actuel avant de l'archiver. Cette cinquième étape ne s'applique qu'aux projets annulés, reportés ou mis sur pause. Je ne veux plus les avoir sous les yeux, mais avant de les écarter, j'ajoute une note dans le dossier correspondant que j'appelle « Statut actuel ». J'y consigne quelques commentaires rapides de façon à pouvoir me replonger dans le sujet aisément à l'avenir, au besoin. Par exemple, en quelques puces, je peux décrire les dernières actions menées pour le projet, m'expliquer pourquoi il a été reporté ou annulé, qui travaillait dessus et quel était son rôle, ou encore quelles sont les leçons ou les meilleures pratiques apprises. Ce pont Hemingway me permet de mettre le projet au congélateur en sachant que je peux l'en extraire quand je veux. En étant honnête avec moi-même quant aux raisons qui ont fait caler un projet, et en prenant quelques minutes pour coucher par écrit mes réflexions à ce sujet, je suis souvent capable de le reprendre des mois, voire des années plus tard, sans trop d'efforts. Constater que l'on peut geler un projet et, ce faisant, vider son esprit de la charge mentale liée au besoin de ne pas l'oublier complètement, est extrêmement libérateur. C'est également très réconfortant de savoir que je ne suis pas tout le temps obligé de progresser sur tous les fronts en même temps. Voici quelques points supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre liste de contrôle de clôture de projet. Je vous encourage à les personnaliser pour qu'ils soient en phase avec vos besoins. Trouvez une réponse aux questions de l'analyse post-mortem. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous bien fait? Qu'auriez-vous pu mieux faire? Que pouvez-vous améliorer pour la prochaine fois? Communiquez avec les parties prenantes. Informez votre responsable, vos collègues, vos clients, vos actionnaires, fournisseurs, etc. de la finition du projet et des résultats associés. Évaluez les critères de succès. Les objectifs du projet ont-ils été atteints? Pourquoi ou pourquoi non? Quelle en est la rentabilité? Clôturez officiellement le projet et fêtez cela. Envoyez les derniers emails, factures, reçus, questionnaire d'évaluation ou documents et fêtez votre réussite avec votre équipe ou vos collaborateurs en juste récompense des efforts déployés. Vous devriez traiter tous les points de cette liste de contrôle de clôture de projet encore plus rapidement que ceux relatifs au lancement. Ne consacrez pas plus de 10 à 15 minutes à rassembler tout matériau non classé et tout enseignement éventuel, étant donné que vous ignorez si vous réutiliserez ces informations un jour ou pas. Faites en sorte que votre moi futur soit en mesure de décider si elles lui seront utiles pour un autre projet, mais pas plus. Si c'est le cas, il pourra toujours consacrer un peu plus de temps à mieux organiser et distiller ce contenu. Le but des listes de contrôle de projet n'est pas de structurer à l'excès ni d'automatiser votre manière de travailler. Il est de vous aider à démarrer et à boucler vos projets de façon propre et nette, pour vous éviter de vous retrouver avec des engagements orphelins, qui traînent à l'infini. Voyez-les comme des étais, c'est-à-dire des structures qui permettent à ce que vous êtes en train de construire de tenir debout. De même qu'un étai finit par être démonté, de même ces habitudes finiront par faire partie intégrante de votre façon de penser, au point de devenir une seconde nature. Sous peu, il ne vous viendra plus à l'esprit de vous lancer dans une nouvelle entreprise sans vérifier d'abord si votre second cerveau ne recèle pas déjà du matériau réutilisable. Faire des revues une habitude. Pourquoi traitez vos notes par lot et à quelle fréquence? Regardons à présent les revues hebdomadaires et mensuelles. La pratique consistant à conduire une revue hebdomadaire a été lancée par l'auteur et coach de dirigeants David Allen dans son livre influent « S'organiser pour réussir ». Tel qu'il l'a décrit, il s'agit d'un contrôle régulier de votre travail et de votre vie au cours duquel vous remettez délibérément les compteurs à zéro. Elle vous sert à noter les nouvelles tâches à accomplir, à passer en revue les projets en cours et à décider des priorités pour la semaine à venir. À cela, je suggère d'ajouter un point supplémentaire en trois étapes. Passer en revue les notes que vous aurez créées au cours de la semaine écoulée, leur donner des titres succincts indicatifs de ce qu'elles contiennent et les classer dans les dossiers para appropriés. La plupart des applications de prise de notes disposent d'une sorte de boîte de réception où les notes s'accumulent en attendant d'être rangées. Chacune ne vous prendra que quelques secondes à traiter et le lot dans son ensemble, pas plus de quelques minutes. Voyons maintenant en détail comment les revues hebdomadaires et mensuelles peuvent vous aider à maintenir votre second cerveau prêt à accueillir tout ce qui pourra se présenter à vous. Formatez sa revue hebdomadaire de façon à ne pas se laisser submerger. Vous trouverez juste après la liste de points de contrôle qui constitue la revue hebdomadaire que je déroule d'ordinaire tous les 3 à 7 jours en fonction de l'encombrement de ma semaine. L'idée n'est pas de fixer un calendrier rigide, mais de prendre l'habitude de vider ses boîtes de réception et de faire le ménage dans ses espaces de travail numériques régulièrement pour éviter d'être débordé. Je garde cette liste de contrôle sur un post-it numérique sur mon ordinateur afin de pouvoir m'y référer aisément. 1. Vider la boîte de réception de ma messagerie électronique. 2. Vérifier mon agenda. 3. Nettoyer le bureau de mon ordinateur. 4. Vider la boîte de réception de mon application de prise de notes. 5. Déterminer les tâches à accomplir durant la semaine à venir. 1. Vider la boîte de réception de ma messagerie électronique. Je commence par vider de ma boîte de réception tout email datant de plus d'une semaine. Je n'ai généralement pas le temps de le faire pendant la semaine en raison de mes autres priorités, mais j'ai constaté que si je laisse les messages s'accumuler d'une semaine à l'autre, j'ai du mal à distinguer ce qui est nouveau et requiert une action de ce qui est passé. Toute action à mener est enregistrée dans mon application de gestion des tâches, tandis que mes notes sont consignées dans l'application leur correspondant. 2. Vérifier mon agenda. Ensuite, je consulte mon agenda. Il me permet de voir à quoi ma semaine va ressembler en m'indiquant les réunions et les rendez-vous prévus. D'ordinaire, je jette également un coup d'œil aux 2 dernières semaines au cas où certains points nécessiteraient un suivi. Et je regarde aussi les 2 semaines à venir pour vérifier si je dois me préparer à quelque chose. De nouveau, tout ce qui requiert une action de ma part est ajouté à mon application de suivi des tâches et toute note créée à ce stade est sauvegardée dans l'application correspondante. 3. Nettoyer le bureau de mon ordinateur. Ensuite, je classe les fichiers que j'ai accumulés sur le bureau de mon ordinateur. Autrement, mon environnement numérique devient si encombré que je n'arrive plus à penser clairement. Chaque fichier potentiellement utile pour mes projets, mes domaines d'intérêt ou mes ressources est rangé dans le dossier e-douane de la section « Documents » de mon ordinateur. 4. Vider la boîte de réception de mon application de prise de notes. À ce stade, cette boîte est pleine d'éléments intéressants issus des 3 étapes précédentes, de ma messagerie électronique, de mon agenda et du bureau de mon ordinateur, sans compter tout ce que j'ai pu collecter au cours de la semaine précédente, ce qui représente généralement entre 5 et 15 nouvelles notes. Je les classe l'une après l'autre en une session, en décidant rapidement et de façon intuitive à quel dossier para les affecter. Au besoin, je crée également de nouveaux dossiers. Étant donné qu'il n'existe pas vraiment d'emplacement correct, à l'exclusion de tout autre pour une note donnée, et que la fonction de recherche est extrêmement puissante, je range chaque note dans le premier dossier approprié qui me vient à l'esprit. Vous remarquerez que ce processus simple et pratique qui consiste à parcourir ma boîte de réception de notes, à donner un titre informatif à chacune d'entre elles et à les classer dans les dossiers para est la seule étape de ma revue hebdomadaire directement liée à mon second cerveau. À ce moment-là, je ne surligne ni ne résume rien. Je ne m'efforce pas non plus de comprendre ou de m'imprégner des contenus sauvegardés, ni ne me demande à quels autres sujets ils pourraient se rapporter. Je réserve cette réflexion à plus tard, à un moment et en un lieu où je saurai ce que j'essaie d'accomplir et où je chercherai une brique de connaissances pour atteindre mon objectif plus rapidement. Ce processus de tri hebdomadaire me permet de me remémorer en douceur les connaissances que j'ai accumulées au cours de la semaine passée et d'entretenir le flux de nouvelles idées et de nouveaux enseignements qui vient nourrir mon second cerveau. 5. Déterminer les tâches à accomplir durant la semaine à venir. La dernière étape de ma revue hebdomadaire consiste à vider la boîte de réception de mon application de gestion de tâches. À ce stade, j'ai déjà accumulé un certain nombre de tâches à partir de la lecture de mes emails, de mon agenda, des informations disséminées sur le bureau de mon ordinateur et de mes notes. Je passe quelques minutes à les affecter aux projets et domaines auxquels elles sont liées. Enfin, je sélectionne celles que je me propose de réaliser durant la semaine à venir. Comme je viens de parcourir l'intégralité de mon univers numérique et que j'ai pris en compte toutes les informations potentiellement pertinentes, je suis confiant dans mes décisions et je peux commencer ma semaine en sachant que je vais m'atteler aux tâches appropriées.